Simone questionne par Claude Léa.
L'émission prospective et incitative qui laisse gambader les animaux et gamberger les cérébraux, à moins que ce soit le contraire. Bonjour à tous, aujourd'hui Simone questionne reçoit Gaëtan Rivoallon, vigneron et voyageur. Bonjour Gaëtan.
Bonsoir Claude.
Il y a des voyageurs qui collectionnent les aurores boréales et vous, vous collectionnez les vinifications, c'est pas courant.
Hein? Non, en effet.
Alors, vous en avez fait 7 en 2 ans,
c'est ça? Ces dernières années, oui.
7 en 2 ans ces dernières années. Alors, dans quelques minutes, vous allez nous expliquer comment c'est possible, parce que là on n'arrive pas à se représenter. Nous on pense qu'il y a une vinification par an.
C'est...
Alors on va déjà récapituler tous les pays où vous êtes allé, donc Nouvelle-Zélande,
Australie, Argentine, ouais. Chili, Afrique du Sud et États-Unis,
Oregon, Californie, c'est ça ?
C'est ça, ouais, la même année.
Alors j'ai vu sur la page Facebook Italie et Espagne aussi.
Ah non, ça c'est juste des amis, des voyages personnels.
C'est des personnels, c'est du tourisme.
Exactement.
D'accord.
Qui reste souvent toujours dans le vin.
Oui, mais c'est tout. On est quand même toujours dans le vin, quand même toujours plutôt au sud, on va dire. Enfin bon, pour le vin. Alors, on va découvrir pourquoi et comment vous êtes allé dans tous ces pays. Alors, on va d'abord parler de votre formation. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation ?
Moi, à la base, j'ai fait un BTS technico-commercial boisson, vin et spiritueux au lycée viticole de Beaune. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'avais envie de partir à l'étranger parce que durant ma formation, j'ai eu plusieurs stages, dont stage commerce et un stage de formation technique en vinification dans un domaine viticole où j'étais à Vosne-Romanée. C'est un travail qui m'a vraiment plu, vraiment de le concret, de salir les mains, d'avoir quelque chose de palpable. Ouais. Et du coup, je me suis dit, après mon BTS, si je l'obtiens, je décide de partir en Nouvelle-Zélande.
Ah, du premier coup, comme ça.
Du premier coup, oui.
Ah oui, d'accord. Mais là, aujourd'hui, par exemple, vous avez travaillé là aujourd'hui à Nuit-Saint-Georges, où ça ?
Dans les Hautes-Côtes de Nuit, à Chevannes précisément, un petit village situé à 10 km de Nuit-Saint-Georges, je travaille avec David Duban.
Quand je regarde la page Facebook, il y a de quoi avoir le vertige, parce qu'on voit tous les domaines. On s'aperçoit aussi qu'il y a des domaines Mitton ou de la Bourgogne qui ont
aussi
des domaines de par le monde. Alors maintenant, on va voir les métiers exactement que vous avez exercés dans ces différents pays. Je commence par lequel ? La Nouvelle-Zélande, c'était pour faire quoi au début ?
C'était plus précisément pour faire de l'aide caviste. Mon premier voyage en Nouvelle-Zélande, j'ai décidé de partir dans une grosse exploitation. Car venant de Bourgogne, où on travaillait sur des petites exploitations, sur des petits terroirs plus ou moins isolés, j'ai voulu voir cette différence qu'on pouvait avoir entre la Bourgogne et les vins du Nouveau Monde. Donc mon premier voyage a consisté à partir dans une grosse exploitation, pas forcément en termes qualitatifs, mais plus pour une ouverture d'esprit.
Et c'était vraiment une grosse exploitation ?
On vinifiait plus ou moins plus de 1000 hectares.
Ah oui.
Pour une récolte de 15 000 tonnes. Sachant que dans le domaine où je travaille à l'heure actuelle, on est à peu près à 180 tonnes.
ça n'a aucun rapport
du tout.
Des proportions. Alors j'ai vu qu'il y avait un métier de caviste aussi, et puis d'assistant winemaker, c'est-à-dire.
C'est ça. Donc en gros. C'est plus ou moins donc assister l'œnologue en chef ou le patron sur des décisions plus ou moins finales, sur des dégustations qui viennent le soir entre nous, sur chaque cuve, pour savoir quel type de travail on aimerait faire, ou sur des types de pressurage.
D'accord.
Sur l'élaboration finale, mais en ayant son mot à dire et en ayant une écoute à côté derrière.
D'accord, il y a à la fois des conseils, c'est une formation,
aussi.
Puis en même temps, on a son mot à dire.
Plus ou moins, voilà.
Plus ou moins,
après, le patron a sa vision des choses, en général. Mais le fait que on est assistant, ce n'est pas le simple aide caviste ou...
Oui, bien sûr, qui exécute.
Qui exécute, exactement.
Ouais. Le fait de venir de Bourgogne, c'était un plus pour ça ?
Ça joue beaucoup.
Ça joue beaucoup ?
Ça joue beaucoup. Après, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que le fait de... Parce qu'on ne s'en rend pas compte, il y a beaucoup de gens dans notre région qui ne se rendent pas compte de la chance qu'on peut avoir dans le terme viticole, c'est que c'est une région qui est l'une des plus réputées au monde, si ce n'est là, sans trop d'arrogance.
À ce point-là ?
Oui, en effet.
Bah, j'aurais dit Champagne, comme ça.
La Champagne en fait partie, le ouais. Bordeaux en fait partie, mais sur des exploitations où on travaille le pinot noir, comme en Bourgogne, la Bourgogne reste une référence mondiale.
Cette vinification en 2 ans, alors là, géographiquement, on est un peu perdu. Comment on peut faire ça? Ça se déroule comment?
Déjà, avec les saisons.
Avec les saisons, oui. Et en changeant d'hémisphère.
En changeant d'hémisphère, forcément. Il y a des pays dans d'autres hémisphères qui commencent plus tôt que d'autres.
Par exemple.
En l'occurrence, l'Afrique du Sud, en 2016, où ça va commencer début janvier jusqu'à fin février, début mars. La Nouvelle-Zélande peut commencer à certains endroits mi-mars, début avril.
Donc là, il faut aller en Nouvelle-Zélande.
Donc voilà, faut retraverser l'océan Indien.
Ouais.
Et après, l'hémisphère nord, il y a les États-Unis et la Bourgogne. La chance que j'ai eue en 2016, c'est qu'en Bourgogne, malheureusement, on a eu du gel, ce qui a retardé la vendange. Et aux États-Unis, la vendange était plus précoce. Donc, de ce fait, j'ai pu enchaîner Californie au mois d'août, ouais. Oregon au mois de septembre et la Bourgogne au mois d'octobre.
Ah oui, d'accord. Oui, naturellement, la Californie avant l'Oregon.
Avant l'Oregon.
Je ne pensais pas que dans l'Oregon, il y avait du vin.
Si, de plus en plus. Il y a beaucoup de viticulteurs bourguignons qui investissent en Oregon, qui sont d'autre part consultants pour des domaines réputés. Et il se trouve que l'Oregon est situé sur la même, pratiquement sur la même latitude que la Bourgogne. Donc en termes de climat, on se rapproche plus ou moins. Les sols sont totalement différents, mais il y a beaucoup de similitudes avec la Bourgogne.
Et il y a aussi beaucoup de bourguignons en Afrique du Sud.
Partout dans le monde.
Partout dans le monde.
Ouais, partout dans le monde.
Ils sont bien présentés.
Mais oui, l'Afrique du Sud, en l'occurrence, le domaine pour lequel j'ai travaillé, donc qui s'appelle Bouchard Finelson, a été créé en 1989. L'œnologue sud-africain a gagné un prix de meilleur winemaker pinot noir et le jury était Paul Bouchard, grande maison de négoce à Beaune. Et le vainqueur pouvait s'associer avec Paul Bouchard.
Ah oui.
De ce fait, le domaine s'est construit et s'est nommé Bouchard Finelson.
Et c'est pareil avec. J'ai vu que en Argentine, il y a Cuvelier Los Andes.
Oui, c'est ça.
Donc, et c'est le même système
plus ou moins, ouais. Sauf que c'est bordelais.
Alors, ça fait quand même une grande variété. Est-ce que. Alors, on a vu qu'il y avait des domaines qui sont très très grands. Est-ce que la différence, c'est dans la gestion des domaines, c'est dans la géographie, c'est dans la façon de manager les choses, c'est le nombre des personnes dans les équipes? Qu'est-ce qui fait les grandes différences d'un pays à l'autre?
Les cépages, car on ne trouve pas tous les mêmes cépages dans tous les pays ou à certaines régions. Ça fait la différence. J'ai toujours préféré les domaines à taille humaine.
Ouais.
Où il y a plus de rapprochement, plus de convivialité.
Et alors dans ces pays-là, en fait, là où ils sont plus à taille humaine, c'est au Chili, non ?
Partout dans le monde.
Partout dans le
monde. Partout dans le monde, il y a des gros domaines viticoles de centaines d'hectares au Chili, en Argentine, ouais. En Afrique du Sud.
Même en Californie, il y a des domaines à taille humaine.
Il y en a à taille humaine, oui.
Ah, oui.
Les domaines pour lesquels j'ai travaillé, on était sur une superficie d'une vingtaine d'hectares. Une superficie d'un grand domaine bourguignon.
Il y a de grosses différences techniques, par exemple, pas dans la taille, dans la vinification. Est-ce que c'est là que ça, qu'on voit les différences?
Les techniques peuvent rester les mêmes, mais... Après, c'est ce qui change beaucoup, c'est tout ce qui est de la technologie.
Ah oui.
La technologie. Nous, en Bourgogne, on est plus sur le côté traditionnel. Et à l'étranger, on peut trouver des entreprises qui sont nettement plus avancées en termes de matériel technique. Et en soi, je trouve que c'est la plus grande différence que j'ai pu voir.
On vendange à la main ?
Dans certains pays.
Ouais.
Tout dépend de la superficie du domaine. En l'occurrence, le domaine de 2000 hectares en Nouvelle-Zélande, C'était, c'était vendange machine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ah oui, on est combien de jours pour vendanger un domaine pareil?
Mais sinon, tous les autres où j'ai pu travailler, en Amérique du Sud, toutes les vendanges sont manuelles. Aux États-Unis, toutes les vendanges étaient manuelles.
Ah oui.
Oui, en Afrique du Sud, toutes les vendanges étaient manuelles. Surtout dans des pays comme ça où il y a un seuil de pauvreté qui est très bas, notamment en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Du coup, ils emploient des personnes pour vendanger manuellement, ce qui est qualitativement meilleur.
Ah oui, d'accord. Et puis en même temps, ça crée des emplois saisonniers.
Exactement, oui.
Est-ce qu'il y a aussi des différences culturelles dans la façon d'appréhender les choses? Je sais pas, nous, il y a des rites en Bourgogne, il y a la polée, il y a tout ça. Est-ce que c'est, il y a le casse-croûte? Est-ce que c'est la même chose ou ça se passe tout à fait différemment?
C'est bizarre à dire, mais ça dépend en fait des domaines viticoles.
Plus que de la géographie.
Plus de la géographie, parce que tout ce côté relationnel, humain, on le retrouve pratiquement partout où j'ai pu travailler, notamment en Nouvelle-Zélande, au domaine Pegasus Bay, où je vais retourner dans moins de 2 semaines.
Ah oui, il y a un départ qui est déjà prévu.
Qui est prévu, oui, le 31 mars.
Très bien, c'est pour pas longtemps.
Non. Où il y a vraiment ce côté fusionnel, familial, et ce côté de partage que j'aime retrouver quand je voyage. Et en l'occurrence, dans ces domaines-là, le partage est tous les jours.
Partageons un peu de musique. Vous nous avez préparé une pause musicale. Vous en direz plus sur le titre, vous la laissez l'annoncer.
Alors, j'ai choisi la chanson Sugarman de l'artiste Sixto Rodriguez.
Et on va l'écouter tout de suite.